Le Goethe Institut est très heureux de vous présenter ce soir un hommage à Jürgen Habermas à l'occasion de son 420e anniversaire et dans le cadre des 20 ans de la chute du mur et des 60 ans de la République fédérale d'Allemagne. Cette soirée est un partenariat entre le Goethe Institut, le Centre de recherche LNS Sibel de l'Université Porto III, la Bibliothèque franco-allemande et la librairie Mola. Je remercie tout particulièrement Tristan Coigna, maître de conférence à l'Université Porto III, de nous avoir suggéré cette coopération et d'animer le débat. Et je le laisse aussi présenter les invités. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jutta Bechstein. Vous l'avez dit, cette table ronde autour du philosophe Jürgen Habermas est un partenariat et je suis très heureux et très honoré de pouvoir présenter cette table ronde. Donc un partenariat entre l'équipe LNS de l'Université de Bordeaux 3, la BIFA, la Bibliothèque franco-allemande, et l'Institut Goethe. Et donc je souhaitais remercier vraiment du fond du cœur Jutta Bechstein, mais aussi Carmen Marcou, pour leur enthousiasme en amont de cette manifestation. Alors, pourquoi s'intéresser à Jürgen Habermas aujourd'hui? Alors, bien sûr, ça ne vous a pas échappé, hein, il y a la fièvre commémorative autour de l'Allemagne en cet automne 2009, les 20 ans de la chute du mur, les 60 ans de la République fédérale et à présent, donc, les 80 ans de Jürgen Habermas, donc de l'un des philosophes allemands les plus célèbres. Toutes ces dates, hein, très célébrées en ce moment, hein, joueront bien évidemment un rôle dans nos discussions, mais nous avons un prétexte bien tangible pour notre rencontre, pour notre table ronde. Il s'agit du livre d'Alexandre Dupérix, qui vient de paraître, hein, qui s'appelle « Comprendre Habermas », qui est paru chez Armand Collin. Alexandre Dupérix, hein, qui nous a fait l'honneur de venir à Bordeaux pour cette manifestation, est philosophe et germaniste. Il est maître de conférences à Paris 4 Sorbonne. Il a soutenu, il y a quelques années, une thèse sur Habermas, « La conception de la citoyenneté chez Jürgen Habermas », Une éthique de la responsabilité, un livre tiré de cette thèse, hein, paraîtra l'année prochaine. Il est également traducteur en français de Habermas, un des derniers ouvrages parus en français de Habermas, donc en collaboration avec Christian Bouchain-Dôme, donc d'une part sur l'Europe, et d'autre part dernier livre, donc entre naturalisme et religion. Alexandre Dupérix s'est aussi intéressé évidemment à l'école de Francfort, hein, dont Habermas est un des héritiers. Et donc il nous a semblé aussi important d'associer une spécialiste de l'école de Francfort, une spécialiste même de la troisième génération de l'école de Francfort, parce qu'il y a trois générations à présent. Donc Maïwenn Roudot, agrégée d'allemand, qui enseigne en ce moment à l'université de Nantes, mais qui est rattachée à l'université de Bordeaux 3, et qui va soutenir donc le 7 décembre, donc très prochainement, une thèse intitulée « De la tolérance à la reconnaissance, des Lumières allemandes à l'école de Francfort », où elle s'intéresse, et elle va nous en parler en partie, hein, où elle s'intéresse aussi, hein, au philosophe, hein, héritier de Habermas en quelque sorte, à savoir Axel Honneth et Rainer Faust. Alors, notre intention pour cette table ronde est de proposer un aperçu, hein, du rôle qu'a joué Jürgen Habermas dans le paysage médiatique et intellectuel en Allemagne depuis les années 50 et de mettre en évidence les principaux aspects de sa pensée avant d'envisager aussi les prolongements de sa pensée dans la philosophie contemporaine. Notre présentation, hein, sera relativement courte, hein, pour permettre une discussion après. Et bien sûr, hein, la salle sera invitée à participer à ces échanges. Alors, Jürgen Habermas est né en 1929. Il a mené une carrière universitaire brillante qui lui a apporté une reconnaissance internationale et une reconnaissance, hein, internationale aussi parmi les autres philosophes. La rigueur de son travail philosophique est toujours allée de pair avec un engagement qui fait de Habermas, finalement, un philosophe à usage public. Et c'est à cette facette que je souhaite m'intéresser dans un premier temps, en abordant quelques grands débats publics auxquels Habermas a apporté une contribution remarquée. Alors, toutes ces interventions sont liées à des moments clés de l'histoire de l'Allemagne. Et Alexandre Dupérix, dans son livre, insiste sur le fait que la pensée de Habermas est véritablement ancrée dans l'histoire de l'Allemagne. En ces périodes de commémoration, il me semblait donc important de rappeler un certain nombre de ces débats. Premier débat qui marque un peu, si vous voulez, l'entrée de Habermas en philosophie, c'est en 1953, alors qu'il n'a que 24 ans et qu'il est étudiant à Bonn, Habermas publie un article consacré à la réédition d'un texte de Heidegger, un texte que Heidegger avait écrit en 1935. Et donc cette réédition, en 1953, est l'occasion pour Habermas de publier un article dans l'un des principaux quotidiens allemands. C'est donc un philosophe en formation, très jeune, qui se propose, c'est le titre de l'article, de penser avec Habermas, avec Heidegger, excusez-moi, contre Heidegger. C'est donc en élève de Heidegger qu'il s'en prend au fait que le philosophe a, sans aucun commentaire, repris en 1953 la formule de 1935 sur la vérité intérieure et la grandeur du mouvement national-socialiste. Alors, Habermas est choqué, profondément touché, profondément déçu et même en colère à la lecture de ce texte de 1935. Et dans l'article transparaît cette déception. Et cet article marque finalement un moment important dans l'évolution du citoyen et du penseur Habermas. Donc Habermas, démocrate offusqué, en appelle finalement à la responsabilité sociale du philosophe et à une fermeté morale qu'il essaiera de maintenir pour lui-même jusqu'à aujourd'hui. Parallèlement à cette attitude du démocrate offusqué, Habermas abandonne aussi la référence à Sein und Zeit, à être et temps, le texte fondamental de Heidegger, et notamment au cadre normatif de l'analyse du Dasein chez Heidegger. Donc on voit que son cheminement philosophique, alors qu'il est encore très jeune, et ce cheminement philosophique va le mener à Hegel et à Marx, va de pair avec une prise de conscience du rôle du penseur dans la sphère publique, dans l'espace public. Donc c'est un événement public initial aux yeux de Habermas, et donc ça renforce l'idée de responsabilité sociale du philosophe qu'il va finalement reproduire au cours de sa carrière. Le deuxième événement, le deuxième débat public auquel je souhaiterais consacrer quelques minutes, c'est le mouvement étudiant de la fin des années 60. En République fédérale, le point culminant de ce mouvement de contestation est entre 1967 et 1969. Jürgen Habermas est à cette époque-là professeur de philosophie et de sociologie à Francfort depuis 1964. Et après avoir été l'assistant d'Adorno dans les années 50, il succède à Horkheimer et retravaille finalement à un renouvellement de la théorie critique. Alors Francfort, il faut savoir que Francfort est un haut lieu de la contestation étudiante à ce moment-là, et dans un contexte de troubles et de violences physiques, le positionnement des représentants de l'école de Francfort n'est pas toujours facile. Même Marcuse, le philosophe Marcuse, déçoit les étudiants alors que beaucoup d'entre eux se réclament de lui. Alors, quid du jeune professeur Habermas? Il a à l'époque à peine 40 ans. Il est certainement celui qui cherche le plus le dialogue avec les étudiants. Il participe à des assemblées générales et à des congrès organisés par les étudiants. Alors, sa présence est très forte, beaucoup plus forte que chez les autres représentants de l'école de Francfort. Mais la postérité a surtout retenu le fait que Habermas, à un moment où il était excédé, a qualifié le discours du principal leader étudiant, Rudi Dutschke, de « fascisme de gauche ». Alors, évidemment, ça a été retenu, et du coup, Habermas a été catalogué parmi les conservateurs, voire les réactionnaires, mais c'est, un jugement un peu expéditif. Ce que Habermas critiquait fondamentalement, c'est la simplification théorique, excessive que des étudiants comme Rudi Dutschke faisaient subir à la philosophie. En fait, il soutenait le mouvement dans son ensemble parce qu'il espérait que ce mouvement étudiant contribue à une repolitisation de la sphère publique à la fin des années 60. Donc ce qui l'intéressait finalement, au-delà de la critique, c'est l'approfondissement du fonctionnement démocratique de la société allemande. Et il voulait finalement promouvoir le dialogue, promouvoir le débat au sein de la sphère publique. Donc c'est une chose qui, à cette époque-là, n'a pas été comprise par les étudiants, qui n'a pas été comprise dans la sphère publique, mais qui marque un engagement courageux de la part de Habermas dans une période très trouble. Le troisième débat sur lequel je souhaiterais me pencher, et peut-être un des plus importants aux yeux de Habermas, c'est le questionnement sur la conscience nationale allemande. C'est un débat qui a eu lieu dans la deuxième partie des années 80 et en 1990, à travers deux phénomènes. D'une part, la querelle des historiens, et d'autre part, le débat autour des conditions de la réunification allemande. Alors, en 1985-86, quelques historiens, entre autres Ernst Nolte, considèrent que l'Allemagne est complètement paralysée par la mémoire des crimes commis sous le national-socialisme, et ils veulent passer à un rapport apaisé avec le passé. Alors, qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils mettent en parallèle les crimes nazis et les souffrances endurées par la population allemande à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et aux yeux de Habermas, finalement, c'est une entreprise déculpabilisante, donc surtout menée par Ernst Nolte, qui interprète finalement le nazisme comme une réaction compréhensible aux pathologies du monde moderne et au communisme. Alors, Habermas réagit de manière très vive à cette entreprise de déculpabilisation. À ses yeux, il faut renouveler le travail de mémoire. Alors, Habermas n'est pas du tout le théoricien d'un devoir de mémoire fondé sur la faute, sur la culpabilité des Allemands, sur une mauvaise conscience. Au contraire, ce qu'il veut, c'est un travail sur le passé, un travail compris comme une prise de conscience critique qui permettrait à une nation de construire son identité grâce à une juste appréciation de ce qui a été des potentialités qui ont pu donner lieu au meilleur et au pire dans le passé. Donc, il rejette finalement une nouvelle historiographie nationale et donc demande à la nation allemande finalement un travail critique de prise de conscience des fautes du passé, mais aussi des potentialités positives qu'il y a dans ce passé. Le débat sur le processus d'unification nationale allemand, donc de 1990, est lié à cette question de la querelle des historiens. Aux yeux de Habermas, et ça en décevra beaucoup, l'élan révolutionnaire de 1989, de la chute du mur, a laissé place à un désenchantement à ses yeux. Et finalement, il cherche les causes de ce désenchantement dès 1990, donc dans les mois qui précèdent la réunification officielle de l'Allemagne en octobre 1990. Alors, quelle est la critique de Habermas? Quelle est la crainte de Habermas par rapport à cette réunification? Il a peur que revienne finalement un patriotisme nationaliste, un patriotisme traditionnel qui serait placé exclusivement sous le signe du capitalisme triomphant. Donc finalement, ce qu'il reproche à la réunification telle qu'elle a eu lieu, c'est un déficit normatif, parce que elle a été conçue, pour Habermas, cette réunification a été conçue comme une procédure administrative et non pas comme le résultat d'un acte politique voulu et négocié qui débouche sur l'affirmation d'une nation de citoyens responsables. Donc, il considère finalement que ce retour du patriotisme est un danger, est un danger pour l'Allemagne réunifiée. Un danger parce que ce serait un obstacle à l'intégration dans un État européen, dans ce qu'il appelle un État des nationalités au sein d'une Europe unie. Et dans le débat de 1990 et finalement jusque dans les années 2000, Habermas cherche finalement à dépasser le stade de cette identité nationale. Le but de sa philosophie, à partir de là, c'est de montrer que l'identité n'est jamais fixée, qu'elle évolue toujours, et selon lui, elle devrait évoluer vers l'idéal cosmopolitique. Donc ce positionnement qu'on retrouve dès les années 90, mais jusque dans les années 2000, explique aussi les causes qu'il a pu défendre plus tard, en particulier en 2005, lorsqu'il s'est prononcé en faveur d'un traité constitutionnel pour l'Europe. Donc voici, en guise d'introduction, quelques facettes qui n'épuisent pas les nombreux engagements de Habermas, mais qui montrent, je pense, qu'il ne sépare pas le philosophe et l'intellectuel engagé. Sa philosophie est combative et ce qui marque finalement son engagement, c'est un refus de défaitisme, et je crois que cet engagement qui est toujours d'actualité se retrouve aussi dans sa pensée philosophique, et Alexandre Dupérix va se faire un plaisir de nous la présenter.
Merci beaucoup Tristan, d'abord pour ton introduction et puis pour ton invitation. Je suis très, très content d'être parmi vous ce soir. Alors je vais essayer en 20 minutes de présenter des pistes pour comprendre un petit peu la philosophie de Habermas. Évidemment, en 20 minutes, ce sera très, très schématique. Alors effectivement, son œuvre est très riche, très dense. Elle est composée de plus d'une quarantaine d'ouvrages rédigés sur plus d'un demi-siècle. Alors comment on peut s'y retrouver dans cette œuvre ? Je crois que tu l'as suggéré, et plus que suggéré, une des préoccupations essentielles de Habermas, c'est l'engagement politique. Et cet engagement politique, il naît d'une conscience, ou du moins d'une expérience de l'histoire allemande. Il est né en 29, pardon, donc il est adolescent pendant la guerre. Donc évidemment, cette expérience est fondamentale pour lui. Il sépare bien son activité d'intellectuel engagé de son activité d'universitaire. Mais on retrouve évidemment dans son activité de chercheur, d'académique, d'universitaire, ses obsessions qui viennent de son expérience d'allemand. Ça veut dire très concrètement que sa pensée philosophique est surtout une pensée politique, et que le fil conducteur à travers toute son œuvre, même si elle a beaucoup de facettes, c'est empêcher le retour de la barbarie, empêcher le retour du totalitarisme, réfléchir aux moyens de garantir un régime démocratique. Bon. C'est sa motivation profonde. Alors, formuler dans le langage de la philosophie, cette motivation peut s'exprimer en termes d'émancipation et de critique. L'émancipation et critique sont deux leitmotifs qui circulent dans toute son œuvre. Alors on retrouve évidemment, si vous y êtes un peu familier, les thématiques propres à la théorie critique de l'école de Francfort, à la première génération, formée par Adorno, Horkheimer, et puis aussi bien sûr la tradition hegelo-marxiste. Habermas, tu l'as dit, incarne la deuxième génération de l'école de Francfort, donc voilà, son projet, ça va être de développer une philosophie critique, une philosophie sociale critique. Qu'est-ce que ça signifie, émancipation ou critique, pour ce courant philosophique ? Très simplement, critiquer, c'est pouvoir prendre de la distance par rapport au contexte social, culturel, politique dans lequel on vit, et identifier les situations d'injustice, les situations illégitimes, pathologiques, qui entravent la réalisation de soi, qui causent une souffrance sociale. Il y a des injustices évidentes, facilement identifiables, mais d'autres qui le sont moins, parce qu'elles sont souvent dissimulées par une idéologie dominante ou par des habitudes culturelles que l'on ne remet même plus en cause. L'exercice critique, pour ces penseurs de l'école de Francfort, permet une prise de conscience et donc une libération, une émancipation possible par rapport à ces situations d'injustice figées. Quel est le rôle de la philosophie dans cette entreprise d'émancipation et de critique ? D'abord, garder en alerte l'attitude critique, une vigilance critique, et ça, Habermas, ça se traduit évidemment dans son engagement d'intellectuel public, est constamment en alerte. Et puis, très concrètement, c'est essayer de trouver les critères qui permettent de mener cette critique. Dire pourquoi une situation sociale ou politique est injuste implique de se référer à certains principes, trouver les critères à partir desquels on peut dire, voilà, là, il y a une situation d'injustice. Ça va être le rôle de la philosophie de trouver ces critères, de les déterminer. Évidemment, c'est très difficile, parce que ça implique de s'abstraire de la situation dans laquelle on vit. Et on peut évidemment être plein de préjugés, être soi-même l'objet des idéologies dominantes. C'est tout, évidemment, la gageure de la théorie critique. Habermas ne va pas essayer de trouver ces critères pour mener la critique de la société dans une théorie abstraite ou surplombant la réalité sociale. Au contraire, et c'est là sa spécificité, son originalité, il va trouver les critères de la critique dans l'immanence de la vie sociale, dans le langage le plus quotidien. C'est ça sa spécificité, trouver les critères de la critique dans la rationalité du langage, dans la rationalité discursive. Alors, je vais développer ça un peu plus tard. Donc voilà, si vous voulez, à mon avis, le fil conducteur, hein, une philosophie sociale critique est menée grâce aux moyens de la rationalité du langage. Bon. Pour schématiser, on peut distinguer trois grands moments dans le parcours philosophique de Habermas. Le premier, dans les années 60, je les énonce et puis je vais les développer rapidement. Dans les années 60, Habermas développe une théorie de l'émancipation qui s'inspire de la psychanalyse. Ensuite, dans les années 70-80, alors c'est certainement ce qui est le plus connu, il développe une théorie de la société qui s'appuie sur une théorie du langage. Et puis dans les années 90-2000, il développe une théorie, tu en as parlé, une théorie de la citoyenneté, de la démocratie, du droit. Voilà les trois grands mouvements à travers lesquels Habermas va essayer de donner une nouvelle formulation à son projet de philosophie critique. Donc, premier temps, dans les années 60, Habermas conçoit l'entreprise philosophique, conçoit la philosophie sociale critique comme une science émancipatoire, dit-il, au même titre que la psychanalyse. Il faut se replacer dans le contexte philosophique, intellectuel de l'époque. C'est la vague, dans les années 60, de ce qu'on appelle le freudo-marxisme, un mouvement qui essaye de faire le lien entre la psychanalyse et le marxisme, qui tente de voir les implications de la société capitaliste sur notre développement psychique. Alors, pour citer deux autres penseurs proches de Habermas, alors Marcuse, qui écrit par exemple « Héros et civilisation », qui explique qu'une partie de nos malheurs, finalement, vient des renoncements pulsionnels que le type de développement économique propre au capitalisme nous impose. Un couple de psychanalystes proches de Habermas sont les époux Mitscherlich, qui, pareil, dans les années 60, s'intéresse à essaye de donner, de faire un diagnostic de la société allemande. Alors, les thématiques sont différentes de celles de Marcuse. Eux, ils regardent l'attitude de repli de leurs contemporains, les Allemands. Ils disent, voilà, il n'y a pas d'engagement civique. Les Allemands sont seulement occupés au développement économique de la République fédérale. Et pour eux, c'est le symptôme, en fait, d'un deuil du nazisme qui n'a pas été fait. Donc, ils écrivent un livre qui s'appelle « L'impossibilité, le deuil impossible ». Voilà. Les thèmes sont différents que ceux de Marcuse, mais encore une fois, la méthode est la même. Elle consiste à appliquer les catégories de la psychanalyse à un diagnostic critique de la société. Pour Habermas, le rôle d'une philosophie sociale critique, sur le modèle du travail analytique, du travail psychanalytique, est justement d'identifier les situations où la communication, les situations sociales, où la communication est réprimée, perturbée, déformée, où il y a du non-dit, où il y a des tabous entretenus par les institutions, par des intérêts économiques ou politiques. Et le but, c'est justement d'essayer de voir quels sont les besoins, les revendications qu'une société, pour X raisons, réprime ou refoule. Donc, il s'intéresse au dialogue analytique entre un médecin et son patient, qui lui apparaît être le modèle d'une recherche coopérative de la vérité, le modèle d'un effort commun en vue de libérer un individu de ses illusions, de ses blocages, de ses autocensures. C'est intéressant de voir que, dès cette période, Habermas voit le langage comme le vecteur essentiel de l'émancipation. Le langage qui est compris comme une force de dévoilement, capable de rétablir une communication perturbée. L'aliénation, la dépossession de soi, semble liée à une communication, encore une fois, déformée, refoulée. Alors Habermas va assez rapidement abandonner ses travaux sur philosophie et psychanalyse, parce qu'il va se rendre compte que ce n'est pas si simple, évidemment, de transposer une expérience individuelle de la cure psychanalytique à l'explication de phénomènes collectifs, de phénomènes sociaux collectifs. Mais il reste cet intérêt pour le langage comme vecteur d'émancipation et cette idée d'une coopération entre individus. Alors dans le modèle de la psychanalyse, le médecin et son patient, le modèle d'une coopération entre individus pour accéder à une conscience critique, pour sortir de l'aliénation. Ça, c'est le premier moment, années 60, et l'ouvrage de référence, c'est « Connaissance et intérêt ». Le deuxième moment, encore une fois certainement le plus important, le plus original, c'est celui qui a vraiment fait connaître Habermas, c'est les années 70-80, lorsqu'il développe une théorie de la société associée à une théorie du langage. Bon, on dit souvent Habermas, c'est la communication, le langage, la raison communicationnelle, c'est vrai. Mais ce qu'il développe dans les années 70-80, c'est avant tout une théorie de la société. Ce n'est pas une théorie du langage. C'est une théorie de la société qui se sert des résultats que des travaux menés à la même époque en linguistique. Et dans cette partie précise de la linguistique qui s'appelle la pragmatique, qui étudie les énoncés, les actes de langage, des petites séquences du langage le plus quotidien. Mais son but, c'est un, on ne l'a pas complètement dit, c'est un sociologue aussi à Habermas. Hein. À Francfort, il a la chaire de sociologie et philosophie. À l'époque, les deux se combinent couramment en Allemagne. Donc c'est aussi un sociologue. Donc son approche, c'est de développer une théorie, je me répète, de la société adossée à une philosophie de langage. Donc l'ouvrage de référence, c'est « Théorie de l'agir communicationnel », qui paraît en 81, et en 87 en français. Beaucoup de travaux préparatoires dans les années 60-70, et puis beaucoup de commentaires aussi, qui paraissent dans les années 80-90. Il développe une éthique de la discussion. Bon, je n'ai pas le temps évidemment de rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un gros morceau. C'est là effectivement qu'il développe des notions qui sont devenues connues, célèbres, comme la raison communicationnelle, le consensus, la situation idéale de parole, etc. Il est influencé à la fois par son ami Karl Otto Appel et par, je te disais, la pragmatique, cette partie de la linguistique, et puis le pragmatisme, ce qui est un peu différent, le pragmatisme nord-américain. Hein. Alors, le projet de Habermas dans ce deuxième temps, quel est-il ? Ce qu'il veut montrer, c'est que la vie sociale, la manière dont une société se stabilise, se reproduit, évolue, n'est pas uniquement déterminée par les rapports de production. Alors quand je dis ça, évidemment, il faut replacer Habermas dans la tradition dans laquelle il se réclame, c'est le marxisme. Évidemment, les forces de production, les rapports de production sont quelque chose d'essentiel. Hein. Le matérialisme est un moteur hein, dans le développement d'une société. Habermas ne conteste pas l'importance, évidemment, des analyses économiques de la tradition marxiste, mais il dit que ce n'est qu'un aspect du problème. Toute une partie de la société, de la vie sociale, de la reproduction de la société, de l'évolution, des progrès, se font sur un mode communicationnel. Voilà. Les gens s'entendent, en réalité, sur des normes dont ils débattent. Il y a un espace de liberté communicationnelle, il y a un espace d'entente, de coopération. Son but, c'est de jeter une lumière sur cet aspect de la vie sociale, de la reproduction sociale, ce qui est peu fait dans sa tradition philosophique. Donc, la communication orientée vers l'entente et l'émancipation, dont il espérait trouver le modèle dans la relation médecin-patient, dans la phase précédente dont je viens de parler, Habermas la recherche désormais dans les interactions les plus quotidiennes. Il veut montrer que notre vie sociale repose en partie sur une communication langagière rationnelle, une communication s'opérant de manière non violente, selon une logique argumentative et coopérative. Alors quel est le but de la philosophie dans cette théorie-là ? C'est de reconstruire, à l'aide de la linguistique, les règles, les normes de cette communication. Et en partant, je disais, de l'étude des séquences langagières les plus simples, ce qu'on appelle les énoncés ou actes de parole. Alors, quels sont, en quelques mots, les enjeux de ce qu'on appelle le tournant pragmatique opérée par Habermas. Donc l'idée, c'est que le langage est orienté vers l'entente. Comprendre un énoncé, c'est comprendre les raisons qui rendent cet énoncé acceptable. C'est pouvoir être en accord avec ces raisons. Comprendre signifie en fait s'entendre sur. Comprendre implique un énoncé que l'énoncé, enfin si vous voulez, l'énoncé engage le locuteur et l'interlocuteur dans une relation interpersonnelle. Quand il y a communication, une personne s'entend avec une autre personne au sujet de quelque chose dans le monde. Vous voyez, cette espèce de métacompréhension. Il se passe quelque chose au moment où on communique. C'est pas juste je comprends ce que tu me dis. Je comprends en fait le contexte d'énonciation et je comprends les raisons qui fondent ton énoncé. Pour comprendre cela, je vais être plus clair, pour que vous puissiez comprendre ma communication, il faut comprendre que nos énoncés reposent en fait sur ce que Habermas appelle des prétentions à la validité. Je vais donner des exemples. Les prétentions à la validité sont essentiellement de trois types. Et c'est eux qui créent une dynamique d'interlocution. C'est eux qui créent cette raison communicationnelle. D'où elle vient, cette raison communicationnelle? De ces prétentions à la validité. Habermas en distingue un certain nombre, trois essentiellement. Des prétentions à la vérité, des prétentions à la justesse normative et des prétentions à l'expressivité subjective. Ces prétentions à la validité correspondent respectivement à trois actes de langage. L'acte de langage constatif, l'acte de langage évaluatif normatif, l'acte de langage subjectif expressif. Je vais donner des exemples. Acte de langage constatif, qu'on utilise constamment. Exemple bête. L'équipe de France joue les barrages après-demain contre l'Irlande. Je me réfère ici à des événements, à des faits objectifs dans le monde, que je peux éventuellement préciser, prouver objectivement. C'est pour ça qu'on parle d'acte de langage constatif. Voilà, ce sont des choses. Et on utilise constamment ce type de langage constatif. Deuxième type d'acte de langage, l'acte de langage évaluatif normatif. Dans le même registre, ce n'est pas bien de critiquer Raymond Domenech. Voilà, c'est un acte de langage évaluatif normatif. Je porte un jugement, je dis ce qui me semble bien ou ce qui me semble pas bien. On n'est pas dans le registre du simple constat, il y a un jugement qui portait une évaluation. Troisième acte de langage possible, l'acte de langage subjectif expressif, dit Habermas. Par exemple, j'aurais bien aimé être footballeur. C'est un énoncé qui fait intervenir la sincérité du locuteur. En fait, explique Habermas, la communication est possible parce que implicitement, on comprend les raisons qui rendent acceptables ces énoncés. Si mon interlocuteur ne m'interrompt pas lors de l'acte de langage numéro 1, à savoir la France joue contre l'Irlande, après-demain, les barrages pour le mondial. C'est que mon interlocuteur est d'accord avec les prétentions à la vérité contenues dans mon énoncé. Il sait que la France joue samedi, il sait que c'est contre l'Irlande, il sait qu'il y a des barrages, il sait ce que sont les barrages, il sait qu'il y a un mondial, etc. En revanche, si un élément de cet acte de langage lui échappe, il va me demander des comptes pour ce que je lui dis. Quoi ? Il y a un match ? Contre quelle équipe ? Pourquoi la France doit jouer les barrages ? Qu'est-ce que c'est les barrages ? Etc., etc. Idem pour l'acte de langage numéro 2. Pourquoi on ne peut pas critiquer Domenech ? Eh bien, pour telle raison morale, parce qu'il représente l'équipe de France, l'unité, etc. Je choisis d'argumenter dans ce sens-là. Mon interlocuteur peut évidemment ne pas être d'accord. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir du moment où on ne comprend plus certaines des raisons inhérentes à mon acte de langage, mon interlocuteur va me demander des comptes. La communication, pour reprendre le vocabulaire de Habermas, s'interrompt. On passe au niveau de la discussion. Il fait cette distinction. Communication, discussion. Et au niveau de la discussion, s'enclenche un processus d'argumentation. Ce qui importe, à partir de ces exemples très simples, c'est de comprendre que constamment, en permanence, dans notre vie quotidienne, des effets d'entente, de coordination sont produits par la seule force du langage. Que l'on peut progresser dans la discussion par la seule force de l'argumentation, et pas forcément par la contrainte. Bien sûr que ça arrive, par la peur, la lâcheté, l'ignorance, bien sûr que ça arrive. Mais ce que veut prouver Habermas, ce que veut montrer Habermas, c'est qu'il y a dans le langage cette force qui fait que on peut choisir ou non ou du moins qu'il y ait une rationalité propre au langage et qu'on peut toujours demander des comptes si on ne comprend pas quelque chose. Le langage apparaît dans cette optique comme un espace de négociation. Il recèle un potentiel critique. Il est toujours possible de remettre en cause un énoncé, de remettre en cause donc les choses, pourvu qu'on puisse argumenter. Transposé à la vie sociale en général, qui est structurée en grande partie par le langage, là il part des exemples très simples de petits énoncés, mais il s'intéresse évidemment dans sa théorie de la société aux activités en général, à des secteurs entiers de la société, transposé à la vie sociale en général, qui est elle-même structurée par le langage, les idées de Habermas signifient que des domaines entiers de cette vie sociale sont soutenus par cette entente communicationnelle, par cette rationalité discursive. Et le but, l'enjeu pour Habermas, c'est de préserver ces espaces de liberté communicationnelle. Il dit que la vie sociale est traversée par des tensions contradictoires. D'un côté, une intégration sociale qui se fait sur un mode systémique, dit-il. Il y a des contraintes qui pèsent et contre lesquelles on ne peut pas forcément grand-chose. Mais il y a aussi une autre tendance dans la vie sociale, c'est cette ressource communicationnelle qui fait qu'on ne doit pas forcément se résigner à des institutions, à des états de fait, à une vie politique particulière, etc. Non, il y a certains domaines qui relèvent de cette rationalité communicationnelle et qui doit se légitimer dans une société démocratique, qui doit rendre des comptes. Et c'est effectivement aux citoyens, par la force de l'argumentation rationnelle, de remettre en cause des discours qui peuvent paraître évidents, mais qui peut-être ne sont pas si fondés que ça, qui peut-être ne sont pas si légitimes que ça. Un autre aspect qui est très important en réalité, mais je suis obligé de schématiser, bien sûr, c'est que pour lui, pour Habermas, le modèle d'une discussion qui se déroule dans des situations idéales, c'est-à-dire sans contraintes, sans peur, dans des situations de respect, de symétrie, où tout le monde peut échanger, peut apporter les arguments qu'il veut, idéalement, discussion à laquelle tout le monde pourrait participer. Pour lui, ce modèle de discussion où œuvre la raison communicationnelle, argumentative, c'est le modèle de toute discussion sur des normes. Ce qui va l'intéresser, bien sûr, c'est pas juste qu'on puisse se mettre d'accord sur le match de l'équipe de France après-demain, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de cette rationalité pour rationaliser notre vie sociale, notre vie politique. On va se mettre d'accord sur les normes, les lois qui vont régir notre société. Et pour lui, le meilleur moyen d'obtenir une meilleure qualité, la meilleure qualité possible de ces lois, de ces normes, c'est que ces normes, que ces lois soient le produit d'une rationalité discursive. C'est qu'on ait pu en discuter dans les conditions des discussions les meilleures. C'est ça la raison communicationnelle, et c'est ça le débouché, je dirais, social et politique de toute sa théorie sociolinguistique. Les années 70-80 sont consacrées à ça et à bien d'autres choses, mais voilà, c'est cette thématique communicationnelle qui est le fait saillant de son activité universitaire. Le troisième temps, et le dernier, tu l'as évoqué déjà, Tristan, c'est à partir des années 90-2000, un intérêt évident, prononcé, clair, pour la philosophie politique, à proprement parler. Le livre de référence, là, c'est « Droit et démocratie », qui paraît en 92 et en 97 en français. Pourquoi ? Alors, donc, philosophie politique s'intéresse concrètement à la citoyenneté. Qu'est-ce qu'être un citoyen ? Qu'est-ce que le lien civique aujourd'hui, en Allemagne et en Europe ? Alors, pourquoi il s'intéresse vraiment précisément, explicitement à la philosophie politique, au débat sur la démocratie et la citoyenneté ? Clairement, le contexte de la réunification, qui l'incite à réfléchir à qu'est-ce qu'être citoyen allemand ? Ça c'est aussi une constante dans son activité, les débats qui viennent des États-Unis depuis les années 70-80 d'ailleurs sur l'État-providence. Habermas, c'est vraiment une de ses caractéristiques très éclectiques, il lit énormément et il intègre les différentes théories de ses collègues à sa propre pensée. Donc, développer pour lui à partir des années 90 une théorie de la citoyenneté, c'est aussi une façon de prendre part à un débat qui a lieu dans les pays occidentaux. Alors, en quelques mots, hein, parce que je vois que j'ai déjà beaucoup parlé, le lien avec le deuxième moment, c'est qu'une démocratie est digne de ce nom, le deuxième moment linguistique, communicationnel, c'est qu'une démocratie est digne de ce nom si elle permet une grande liberté communicationnelle, par exemple dans l'espace public. Alors vous savez probablement que l'espace public, c'est un des grands thèmes habermassiens, qui ne date pas d'ailleurs des années 90-2000, hein. C'est le titre de sa thèse de 1962, hein. Mais c'est une thématique qui parcourt toute son œuvre, l'espace public, et dans les années 90, il le reprend, il essaye de mettre à jour, hein, ses thèses des années 60. Pour lui, l'espace public, c'est évidemment un des fondements de la démocratie, c'est un principe de transparence, d'information et de formation. Donc, une démocratie digne de ce nom, si elle permet une grande liberté communicationnelle, si ces normes, essentiellement juridiques, je le disais tout à l'heure, sont issues de processus délibératifs, de canaux délibératifs, si ces normes sont reconnues comme étant légitimes, si on peut y consentir pour de bonnes raisons. C'est sur cette base, donc vous voyez, dans le prolongement de sa réflexion communicationnelle, qu'il développe ce que l'on appelle le modèle procédural délibératif. Bon, peut-être qu'il y aura des questions là-dessus, je pourrais préciser à ce moment-là. Ce qui me semble intéressant aussi, peut-être pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est notamment à partir de ces années-là, à partir de la querelle des historiens en 86-87, à partir de la réunification, et puis dans les années 90, qu'il développe son idée de patriotisme constitutionnel. Hein, c'est un des moments forts de sa réflexion politique, sa réflexion sur la citoyenneté, sur la démocratie. Peut-être en deux mots, dire ce que c'est, le patriotisme constitutionnel. Alors, tu disais que justement, il s'inquiétait du mauvais patriotisme qui avait présidé à la réunification. La question qui se pose effectivement dans ces articles, qui datent des années 89-90, c'est bah, pourquoi il y a cette réunification? Est-ce que c'est attiré par la prospérité économique de la RFA que la RDA accepte cette réunification? Ou est-ce que c'est un véritable projet politique, un projet civique, hein, d'adhésion à des valeurs universalistes contenues dans la Constitution? Bon. Donc c'est à ce moment-là qu'il développe cette idée de patriotisme constitutionnel. Et l'idée en deux mots, c'est essayer justement de proposer pour l'Allemagne une définition de la citoyenneté en termes éthiques, politiques, volitifs. Voilà, on est membre d'une nation parce que on fait allégeance à ces principes constitutionnels, voilà, et pas parce qu'on parle la même langue, même si c'est quand même utile, qu'on est né, que toute la famille est née sur le territoire allemand depuis des générations, etc. Pour nous, dans une tradition républicaine, ce n'est pas spectaculaire comme théorie. Mais il faut bien voir la tradition dans laquelle Habermas inscrit sa pensée, voilà, jusqu'en 99, c'était le droit du sang qui prévalait dans le code de nationalité allemand. Donc il y a vraiment, voilà, ce pas que veut franchir Habermas en disant, voilà, non, aujourd'hui, une citoyenneté démocratique, elle doit se vivre comme l'adhésion à des principes constitutionnels. Mais le reproche qui lui est souvent fait, c'est de dire, oui, mais ça, c'est trop abstrait, on a besoin d'identification plus concrète quand on fait partie d'une nation. C'est pour ça qu'il... Il parle de patriotisme pour dire non, il y a évidemment une adhésion aussi qui vient du cœur d'une certaine façon. Donc vous voyez comment il associe ces deux pôles, hein, patriotisme et constitutionnel. Mais le patriotisme, cette adhésion à des principes, elle doit être en fait le résultat d'une histoire. On doit savoir pourquoi on finit, nous Allemands, par adhérer à ces principes constitutionnels. Ce lien civique défini par son concept de patriotisme constitutionnel, il est ancré dans l'histoire. Voilà. Et pour Habermas, ce patriotisme constitutionnel est parfaitement transposable, tu l'as suggéré, au niveau européen. On peut effectivement concevoir une constitution européenne. C'est là, parenthèse, qu'il se démarque d'une conception républicaine. Hein, sa conception de la citoyenneté, on se dit, oui, ça ressemble finalement à du républicanisme. Voilà, peu importe la culture d'origine, on adhère à des principes constitutionnels. Oui, mais une des spécificités, c'est que Habermas découple l'idée de découple la constitution de la nation. Pour lui, on peut tout à fait adhérer à des principes constitutionnels post-nationaux. Bref, bon, vous voyez, je me laisse un petit peu embarquer. Il y aura probablement des questions qui permettront de détailler un peu plus ce troisième moment. Retenez en tout cas que, voilà, à partir des années 90-2000, il traite nombreux sujets propres à la vie politique d'une démocratie contemporaine. Il parle aussi, dans ses derniers livres, de la religion, la place de la religion dans une démocratie moderne. Il parle des manipulations génétiques, etc., etc. Pour finir, un mot de conclusion, je rejoindrai en fait ce que tu as dit, toi aussi. C'est une philosophie non résignée, combative. C'est ce que personnellement j'aime bien chez Habermas, ce qui fait que j'ai pu travailler plusieurs années sur cet auteur sans m'enlacer. Il apporte énormément de clés et d'éclairages sur la société contemporaine, la vie d'une démocratie contemporaine. Donc ça, c'est vraiment stimulant, intéressant. Il y a des ouvrages qui sont difficiles, c'est vrai. Il y en a d'autres qui sont plus courts et peut-être plus de circonstances, comme par exemple sur la religion, sur les manipulations génétiques. Je vous conseille de les lire, c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, ce que je retiens, c'est ça. C'est cette non-résignation, cette philosophie combative. Parfois, on reproche à Habermas d'être utopique, idéaliste. Je ne crois pas. Je crois qu'il est parfaitement conscient, encore une fois, vu l'expérience d'Allemand, qui est la sienne, il ne faut pas être trop optimiste sur le cours des choses, mais voilà, encore une fois, verre à moitié vide, verre à moitié plein, Habermas clairement voit le verre à moitié plein. Voilà pour cette petite synthèse qui a peut-être été à la fois trop courte mais trop longue.
Merci Andoléga, merci Alexandre. Alors, on l'a vu, hein, on dit toujours que, et même ses adversaires disent de Habermas qu'il est un maître de la synthèse, parce que vous avez vu, il brasse depuis Marx et Freud jusqu'au pragmatisme américain. Hein. Mais là aussi, je dois dire que je suis impressionné. Hein, Alexandre Dupérix, c'est aussi un maître de la synthèse. Nous allons passer maintenant avec Habermas, après Habermas, pour ainsi dire, hein, grâce à Maïwenn Roudot. Alors, il faut savoir que Maïwenn Roudot est allé à Francfort, est allé dans ce lieu saint pour suivre les séminaires de ceux qu'on peut considérer partie comme des successeurs de Habermas, hein, dont Axel Honneth et Rainer Faust. Elle nous a même rapporté des interviews de l'un et de l'autre, et j'espère qu'elle va en parler le 7 décembre lors de sa soutenance, ou peut-être même lors de sa présentation aujourd'hui.
Merci Tristan. Je ne sais pas si je vais évoquer les interviews dans ce que je vais dire ce soir. Non, je voudrais aussi assez brièvement en fait montrer ou essayer de voir comment est-ce que la philosophie habermasienne, la pensée habermasienne est mise à profit aujourd'hui encore à Francfort, à l'université de Francfort. Et puis revenir éventuellement sur le thème de la philosophie politique hein, qui joue un rôle très important pour ce qu'on peut appeler donc les héritiers de Habermas à Francfort, qui s'intéressent beaucoup aux thèmes contemporains de la reconnaissance hein, en philosophie sociale et politique, et notamment la reconnaissance des identités. Alors, Axel Honneth est actuellement directeur de l'Institut de recherche en sciences sociales, où il a succédé justement à Habermas en 2001. Il a suivi également donc des cours de philosophie et de sociologie. Il a soutenu une thèse de doctorat en 1983 qui est reprise en grande partie dans son premier ouvrage en 1986 qui s'appelle « Critique der Macht », « Critique du pouvoir ». Et actuellement, il dirige, en plus donc de l'Institut, un groupe de recherche à l'université en philosophie sociale. Rainer Faust, lui, est professeur à l'Université de Francfort de philosophie politique. Il est d'une autre génération que Honneth, hein, il est plus jeune. Honneth fête cette année ses 60 ans, donc Rainer Faust doit avoir dans la quarantaine. Il a soutenu en 1993 sa thèse de doctorat. Il a étudié l'américanistique, hein, les études américaines à l'université de Francfort. Il a séjourné de nombreuses fois en Amérique du Nord en tant que professeur invité dans les universités. Et donc on voit qu'il est d'une autre génération et à la fois d'un autre milieu que Honneth, et cela va certainement expliquer en partie leur interprétation tout à fait différente de la philosophie habermasienne. Malgré cette interprétation différente sur laquelle je reviendrai plus tard, ils conçoivent tous les deux la philosophie habermasienne de la même manière quand il s'agit de la réintégrer dans l'histoire de la philosophie et notamment dans l'évolution de la théorie critique, hein, puisque tous les deux considèrent en effet la pensée habermasienne et notamment la théorie de l'agir communicationnel comme une rupture avec la pensée critique telle qu'elle est développée par Adorno et Horkheimer après la Seconde Guerre mondiale, et en même temps comme l'opportunité justement pour la théorie critique de prendre un nouveau départ. En sortant en fait un peu de l'impasse dans laquelle elle se trouve après la Seconde Guerre mondiale, hein, donc Forst comme Honneth considèrent que la théorie critique est dans une impasse puisque elle a sombré en quelque sorte dans un pessimisme historique suite à la Seconde Guerre mondiale et à la tragédie du Troisième Reich bien sûr, et qui a mené notamment à la publication en 1947 de Dialectique der Aufklärung, hein, la dialectique de la Aufklärung ou de la raison, hein, ça a été traduit des deux façons, me semble-t-il. Et le pessimisme historique dans lequel a sombré en fait la théorie critique pour Honneth et Forst est lié à la conception de la raison que Adorno et Horkheimer vont développer à ce moment-là, qui voit la raison essentiellement comme un instrument de domination de la nature, qui finit toujours par se retourner contre elle-même et contre le sujet qui s'éloigne finalement de lui-même. Et Habermas va rompre justement avec cette conception de la raison en redécouvrant justement ce noyau de rationalité au sein des interactions communicationnelles quotidiennes. Et donc c'est bien cet ouvrage, hein, même si Alexandre l'a dit, ce n'est probablement pas... une rupture, enfin, on parle de tournant pragmatique chez Habermas, mais ça vient probablement de manière progressive chez lui. Mais c'est tout de même, pour les penseurs actuels aujourd'hui, Honneth et Forst notamment, cet ouvrage qui est considéré comme l'ouvrage de rupture décisif et qui permet donc à la théorie critique de prendre un nouveau départ. Mais ces deux auteurs conçoivent la théorie critique différemment. Surtout le terme de critique en fait, hein, puisque pour le dire assez rapidement, Honneth lui va se rattacher à ce qu'on a appelé la jeune théorie critique, hein, c'est-à-dire au premier programme de la théorie critique développé par Horkheimer en 37, et tandis que Forst lui va plutôt développer une critique au sens kantien du terme, hein, on va voir ce que ça implique, mais toujours en passant par Habermas. Donc s'il fallait prendre je vais donner ici trois caractéristiques des réflexions habermasiennes qui ont inspiré de façon décisive la direction qu'ont prise les recherches de Honneth à partir de la fin des années 90. La première caractéristique, donc, c'est la redécouverte de l'aspect créatif du social comme sphère de communication. Donc on l'a vu aussi avec Alexandre, hein, le fait de ne pas concevoir la reproduction sociale uniquement sous la forme d'une réalisation aveugle d'impératifs fonctionnels et systémiques, mais une redécouverte de l'aspect créatif du social qui permet justement l'articulation du descriptif et du normatif, qui correspond en fait à un principe premier de la théorie critique et qui permet donc de renouer avec le thème de l'émancipation, qui est également un thème central de la jeune théorie critique et la question de la justice aujourd'hui chez Honneth. La deuxième caractéristique, c'est l'importance de l'intersubjectivité chez Habermas, hein, dont Alexandre nous a très bien expliqué les ressorts. L'individu ne peut se construire de manière monologique, mais uniquement de façon dialogique au sein de la société, avec l'autre qui l'aide à se construire, à construire son identité. Donc Habermas, lui, va s'intéresser ensuite à la façon dont cela pourra avoir des incidences sur les critères de justice et sur leur élaboration. Honneth, en revanche, va reprendre donc cette caractéristique de l'intersubjectivité, mais plutôt pour s'intéresser à la constitution même de l'identité individuelle. Et notamment montrer que l'individu, pour s'épanouir au sein de la société, a besoin de reconnaissance, la reconnaissance de l'autre, cette reconnaissance lui est octroyée sur la base d'idéaux communs. Donc dans La lutte pour la reconnaissance, qui est son ouvrage probablement le plus connu en France, qui date de 1995, il pose les bases donc d'une théorie de la justice sociale fondée donc sur cette notion de reconnaissance, qui doit, on y reviendra peut-être, aller plus loin que la simple reconnaissance de droits égaux, qui doit être véritablement une reconnaissance de la particularité de l'individu et de sa contribution à la société. Faust, lui... La troisième caractéristique, c'est l'interdisciplinarité qui était constitutive de l'œuvre de Habermas, et également d'ailleurs de la théorie critique à ses débuts, mais elle a été assez rapidement abandonnée par Horkheimer. Et ce qui intéresse donc Honneth dans l'œuvre de Habermas, c'est aussi justement le fait de se fonder à la fois sur des théories sociologiques, sur la psychanalyse, sur diverses théories venues de divers domaines comme l'art, la culture, etc. Et pour Honneth, c'est aussi un objectif pour lui, notamment pour l'Institut de recherche en sciences sociales, que de faire revivre cette interdisciplinarité. Puisqu'il reproche à Habermas de l'avoir quelque peu abandonné à partir de la troisième phase dont tu nous as parlé et de son intérêt plus prononcé pour la philosophie politique et la théorie du droit. En revanche, Faust, lui, s'intéresse presque essentiellement à cette partie-là des réflexions habermasiennes. Donc à la théorie du droit et à la philosophie politique... Et c'est qui donne donc cette idée d'une critique qui serait peut-être plutôt kantienne, d'un aspect critique de sa théorie qui serait plutôt kantien. Dans son dernier ouvrage qui s'appelle Droit de justification, qui est paru en 2007, la référence principale de Faust est droit et démocratie. Et ce qu'il retient de la raison communicationnelle habermasienne, ce n'est pas tant, comme Honneth, le dialogisme qui est contenu dans la constitution même de l'identité, mais le principe plutôt de réponse, en fait. Cette idée que le citoyen est finalement obligé de répondre de ses actes et également des prises de décisions communes. Et pour Faust, le critère final de toute justice, c'est la justification. C'est-à-dire que, en même temps, il va reporter une part des responsabilités qui étaient comprises dans les procédures chez Habermas sur le citoyen lui-même, en disant c'est le citoyen qui doit lui-même répondre de ses actes et aussi des prises de décision qui sont communes. Donc, grâce à Habermas, la justice devient un projet discursif, et en ce sens, elle reste essentiellement ouverte, comme tu l'as expliqué, aux critiques, aux délibérations, aux modifications, et ce qui est pour Faust très important. Reste que, d'après Faust, c'est plutôt la conception de l'autonomie, en fait, chez Habermas, qu'il va essayer de remettre en cause, en se fondant sur la distinction entre les normes morales et les valeurs éthiques chez Habermas. Et il va critiquer le concept habermasien d'autonomie en tant que celui-ci ne prend pas assez en compte, en amont, en fait, le rôle que peuvent jouer les valeurs éthiques et culturelles de chaque individu dans la constitution de son autonomie. Et que donc, en fait, d'après lui, elles ne vont pas être assez prises en compte dans les délibérations en rapport avec la justice, avec les principes de justice. Et donc, c'est ce qu'il va critiquer chez Habermas. Le danger consiste à court-circuiter le potentiel normatif en fait des valeurs éthiques pour Faust. Bon, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure parce que Je ne pense pas que ce soit une critique véritablement justifiée, mais bon, on y reviendra peut-être, puisque Habermas lui-même, en s'opposant à Rawls, justement, a montré que chaque culture pouvait quand même parvenir à la délibération, mais qu'il fallait qu'elle passe en fait par le filtre critique du langage. Et en fait, ce que Faust va faire, c'est plutôt inverser cette argumentation. En disant que c'est le langage qui doit traduire les valeurs éthiques et permettre de traduire une autonomie qui est à la fois éthique et morale, une autonomie éthique et morale de l'individu. Donc le but du jeu, en quelque sorte, ça va être de trouver, de partir à la recherche d'un langage de justice qui soit commun et qui soit à même de traduire les diverses interprétations éthiques qu'on peut avoir des principes généraux et universels qui seront la base, en fait, de la justice ensuite. Pour Honneth, c'est plutôt la délibération entre citoyens égaux comme garantie de la justice qui va poser problème. Honneth se place en ce sens à la fois en amont de Habermas et de Faust, puisqu'en fait il pose la question même des conditions de possibilité d'une telle délibération entre personnes libres et surtout égales. Pour lui, en effet, il existe des expériences de l'injustice qui ne parviennent jamais à une expression articulée dans un langage positif, en fait. Et pourtant ces expériences de l'injustice, elles restent pertinentes pour pouvoir définir quand même ce que signifie la justice. Elles jouent quand même un rôle pour comprendre la justice. Et donc c'est en ce sens notamment qu'il reproche à Habermas d'avoir un peu abandonné son intérêt premier pour le social et pour les expériences de l'injustice. Et lui donc, Honneth, son but, ça va être de partir de ces expériences-là et d'essayer à partir de là de trouver non pas un critère normatif de justice, mais une façon de rendre une justice sociale qui soit plus intégrative, voilà. Donc en fait, il relativise, pour ainsi dire, le moment langagier plutôt chez Habermas, et il va mettre l'accent sur d'autres formes de demandes de justice qui constituent autant de critères immanents sur lesquels on peut fonder une théorie critique de la justice sociale. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur ces deux auteurs. Bon, cela dit, pour en revenir à Honneth, il ne s'oppose pas véritablement à Habermas, c'est-à-dire il conçoit sa propre thèse comme une complémentarité, en fait, hein. Il dit que Habermas n'a pas mis l'accent sur ces expériences de l'injustice qui ne parviennent pas à l'expression dans le langage, mais ce n'est pas pour autant qu'il s'y oppose, hein, il se conçoit vraiment dans la continuité et la complémentarité avec Habermas. Voilà.
Merci, Mme Wen. Donc, Habermas, hein, philosophe fécond, hein, parce que, comme tu l'as dit à la fin, bien sûr, il y a critique, hein, et quel plus bel hommage à un philosophe que de critiquer sa pensée, parce que ça montre qu'on s'y intéresse, mais hein, on envisage surtout la complémentarité. Peut-être une première question avant de laisser la parole au public. Tu l'as dit à la fin, Maïwenn, c'est une question qui s'adresse un peu à tous les deux. Alors, ce troisième Habermas des années 90-2000, effectivement, donc il s'intéresse à une théorie normative de la démocratie. Est-ce que vous pensez que ce reproche-là de déficit sociologique, est-ce que c'est véritablement fondé? Est-ce que Habermas en est conscient? Comment est-ce que vous verriez la chose?
Je pense que tu...
De mon point de vue, c'est pas forcément fondé, au sens où quelle est l'intention de l'auteur, c'est toujours la question qu'il faut se poser. C'est pas l'intention de Habermas de développer pour le coup une théorie de la reconnaissance, de l'injustice dans les interactions, etc., etc. Donc, pour moi, ça ne peut pas être un reproche. Hein. En tout cas, on peut constater qu'il se dirige vers un modèle, effectivement, normatif, moins descriptif, mais lui reprocher un déficit d'analyse sociologique. Bon, si c'est son parti pris, encore une fois, de proposer une théorie de la démocratie normative, bon, bah, il faut juger son travail d'après cette intention initiale. Donc pour moi, c'est pas... Mais c'est évident, et comme tu l'as dit, hein, tous les travaux, notamment ceux menés par Ronette, loin de s'opposer à ceux de Habermas, les complètent de façon très avantageuse et très intéressante.
Cela dit, il me semble quand même que dans sa controverse là avec Rawls, là, il lui reproche tout de même de ne pas assez confronter ses propres thèses à des écrits sociologiques.
Exactement. Il fait les reproches à Rawls qu'on lui fait à lui-même.
Voilà, c'est ça, exactement.
On trouve toujours plus normatif que soi ou plus sociologique que soi.